France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Freddy Eichelberger, ou Eichelberger selon votre culture. Je suis né le 14 juin 1961 à Paris 17e et je suis musicien.
Alors on est en quelle année là? 87, 88, quelque chose comme ça. 89, vous enregistrez votre premier disque solo, La Monica.
Oui.
De Freddy.
Oui. Et ça c'est drôle, ça c'est grâce à Alain Villain.
Oui.
J'avais rencontré Alain Villain au stage d'orgue d'Alès, où j'étais enseignant. Et Alain Villain était venu présenter ses films, Un grand cespier, le film qu'il a fait sur l'orgue de Poitiers, où on explique comment le vent arrive dans les tuyaux, etc. Enfin, un très beau film. Et il apprend que je suis élève de Jean Boyer, enfin, on parle. Et on parle du disque. Et je lui dis, moi, le gros problème du disque classique en général et du disque d'orgue en particulier, je lui dis, c'est pas fait pour être écouté sur une chaîne. Je veux dire, en rock, parce que moi, j'écoutais que du rock, en fait, hein, toutes ces années-là, quand même.
Ah bon ?
Ah oui.
Ça, c'est nouveau.
Ah oui, non, bien sûr, ouais. Enfin, bien sûr, non, mais en tout cas, oui.
Quel type de rock alors?
Maintenant, ce qui est du rock de vieux, Genesis, Led Zeppelin, un peu Yes aussi, et Pink Floyd, bien sûr. Beaucoup, les Clash, Dire Straits, enfin, tout ce qui sortait quand j'étais jeune, quoi.
Et ça, parallèlement à l'orgue, la pratique de l'orgue.
Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que il y a la musique qu'on écoute et celle qu'on fait, c'est pas forcément la même.
Oui.
Et au contraire, moi, c'est celle que je fais, j'ai presque pas besoin de l'écouter puisque je la fais. Donc voilà. Et donc, je dis à Alain Villain, le disque de rock, soit c'est un disque live, ok, dans ce cas-là, c'est un enregistrement de concert, mais la plupart des disques, c'est fait en studio et on n'essaye pas d'avoir une restitution de ce qui se passerait dans une salle de concert, mais on a quelque chose qui est fait pour que ce soit le plus beau possible sur une chaîne. Et je dis, on fait jamais ça avec le classique, avec les orgues, avec tout ça. Enfin, et on y perd. Et je lui dis, moi, je sais que je préférerais, si je faisais quelque chose, à la limite, j'essaierais bien, même un orgue pourri dans un studio, mais qu'on accorde en mésotonique et qu'on trafique pour en faire le plus bel orgue du monde, pour être joué sur une chaîne stéréo. Il dit, ah, c'est intéressant, voilà, ben, si un jour tu as un projet, tu m'en parles. Et donc, je commençais vraiment à y penser. Et c'est là qu'on a imaginé cette histoire d'enregistrement voix par voix et de recording, enfin, qui a donné La Monica.
Sur quel orgue alors?
Sur l'orgue d'Eskelbeck, qui est un orgue de Marc Garnier, qui est dans les Flandres, tout près de Dunkerque. Ce pays flamand, qui parle maintenant très très peu flamand, parce que, enfin, pareil que l'Alsacien, quoi, le flamand s'est beaucoup perdu là-bas. Mais par contre, c'est toujours extrêmement flamand dans le paysage et la mentalité. Enfin, la bière, le curé était extraordinaire. Enfin, il picolait. Enfin, bon, la bière, le genièvre et tout. Enfin, c'était extraordinaire. Donc, c'est une église en briques. Très, très belle église. Ce qu'on appelle Hallekerk en flamand. Donc, vous savez, là, avec les cinq nefs qui sont toutes à la même hauteur. Et c'est un orgue de Marc Garnier, qui est un orgue plutôt allemand et en mésotonique avec des doubles feintes, donc avec les sol dièse et les la bémol séparés. Donc du mésotonique à 10 tierces pures. Donc c'était la nuit et c'était entre 10h du soir et 6h du matin.
Vous aviez choisi des variations autour du thème de La Monica. La Monica, c'est un...
Une jeune fillette.
Un tube.
Oui, ma chanson préférée. Oui.
De cette époque.
Cette époque, oui. Oui, qui est devenue aussi un choral luthérien, une chanson d'amour, aussi un Noël catholique. Enfin, elle a été récupérée à toutes les sauces, cette chanson.
Et plusieurs compositeurs s'en sont emparés, donc Scheidt et d'autres.
Plein, parce qu'en plus, comme c'est devenu un choral luthérien, tous les gens qui ont écrit de la musique d'église luthérienne jusqu'à maintenant ont écrit aussi sur cette mélodie. C'est, donc on avait deux DAT, Donc j'enregistrais une voix. Ensuite, on faisait la balance pour enregistrer la deuxième voix. Donc Michel Pierre, qui était l'ingénieur du son, tournait les micros donc pour faire venir de droite ou faire venir de gauche, tout ça. Et après, on me balançait le premier DAT dans un casque et j'ai joué par-dessus. Et ensuite, rebelote, donc pour le chute, ça a été 8 passages, comme ça. Et comme j'avais refusé qu'il y ait un métronome, j'avais de moins en moins de liberté, parce qu'on n'est pas des machines. Donc la première voix, c'était de la rigolade. Mettre la deuxième sur la première, en général, ça allait. Puis à partir de la troisième, bon, c'était des bouts de. On avait quand même découpé en 20 mesures, mais sur 20 mesures, il fallait que je retienne par cœur à peu près. Donc je me faisais passer la bande sans jouer d'abord. Et j'entendais où ça accélérait légèrement, où ça retenait légèrement. Donc il fallait que je mémorise par cœur où il fallait que j'accélère, où il fallait que je ralentisse, où il fallait que je presse un peu, où il fallait que je traîne un peu. Enfin, c'était. Non, c'était assez sportif. C'est pour ça qu'on a passé 6 nuits pour un quart d'heure de musique.
Sacrée entreprise, alors, l'harmonica.
Ouais, mais c'est un très très beau souvenir.
Oui.
Très beau souvenir.
Cet enregistrement, donc on est à la fin des années 80, quelque chose comme ça.
Oui,
Hein?
enregistré en 88 et il sortit en
Oui.
89.
Oui.
Ouais.
Vous continuez à vivre, à donner des cours, à enseigner, à donner quelques concerts, à faire des remplacements.
Oui, voilà, ça commence par les cours de danse, accorder les clavecins,
Oui.
etc. Puis de continuo,
Eh
de
oui,
plus en plus.
de
Et
plus en
là, ça
plus.
démarre vraiment.
Dans des ensembles,
Dans
alors, qui
des
vous
ensembles.
invitent à
Voilà,
tenir le
voilà,
continuo.
voilà.
Oui.
Ou qui se créent,
Oui.
conformes entre nous, entre amis,
Oui.
des concerts à droite à gauche, y compris au chapeau, enfin vraiment, oui, on se démène, quoi. Je pense que le vrai déclic, c'est la rencontre avec Odile Edouard et Alain Javrault, où on se rencontre à Marseille, chez Sylvie Mocquet, où j'étais en vacances. Ces vacances-là où j'ai décidé qu'un jour je virais à Marseille. Et là, je rencontre Odile et Alain qui sont de passage,
Donc Odile Édouard qui est violoniste,
qui est violoniste,
Sylvie Mocquet qui est gambiste,
qui est violiste, ouais.
violiste.
Ouais. Et en parlant avec Odile, on se rend compte qu'on est voisins
À Paris alors.
à Paris, donc de nouveau dans le 18e, rue Lapeyrère, et Odile habite à 2 rues de là. Et me dit, ah ben écoute, on pourrait peut-être faire de la musique ensemble. Et là j'arrive, je fais la connaissance d'Alain, et on part tous les trois à faire de la musique italienne, et on a fondé ce groupe qui s'appelle toujours Cine di Tullo. Bon, on fait très peu de concerts maintenant, mais en tout cas, l'histoire d'amitié existe toujours, et l'histoire musicale aussi. Et surtout, c'est à ce moment-là que je découvre, pas je découvre, parce que j'avais découvert Fontana avec André Mitterrand et Christine Vossard à Lille, mais c'est là que je découvre les autres, Cellini, tous ces gens, enfin toute cette musique italienne 17e. Et avec Odile et Alain, on s'est gavé de musique italienne 17e qu'on a joué pendant des années.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce répertoire?
Oh, la liberté, l'intensité, la lumière.
c'était loin de vos origines alsaciennes, tout ça, l'Italie. Un peu de soleil, là, qui entre.
Oui, c'est marrant. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Pourquoi j'avais été à ce point attiré par la musique italienne alors que je me suis jamais senti chez moi en Italie. En tout cas, pas dans le nord. À Rome, un petit peu. Dans le sud, beaucoup plus.
Oui.
Mais autant en Espagne, où je me sens chez moi complètement. Le peu que je suis allé en Grèce aussi, ou Marseille. Cette Méditerranée-là, oui. Mais l'Italie, pour moi, ça a toujours été une mentalité compliquée, difficile à comprendre. Où j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour ce raffinement. Mais c'est pas un raffinement qui me correspond, alors que cette musique-là, si. Et en fait, peut-être l'explication est que l'autre musique que j'aime par-dessus tout, c'est quand même les Allemands 17e. Et je pense que j'aime la musique italienne digérée, en fait. Que j'ai aimé cette musique parce que c'était la source de la musique allemande que je connaissais par ailleurs si bien. Tous les Allemands du Nord, Buxtehude, Thunder, Weckmann, et tous ces gens-là. Et je pense que c'est peut-être, j'ai ressenti la même émotion que eux ont ressenti au contact de cette musique-là, peut-être. Il y a tellement de gens qui disent que le temps n'existe pas et que les émotions, ça traverse comme ça. Même les scientifiques disent que le temps n'existe pas. Donc,
Justement, puisqu'on est dans ce questionnement un peu philosophique, Rudi Eschelberger, vous passez l'essentiel de vos activités de musicien dans des temps assez anciens, un répertoire qui date d'il y a quelques siècles.
Oui.
On pourrait dire que vous vivez dans le passé en jouant ces musiques-là.
On pourrait le dire, mais en fait, ce qui est quand même assez troublant, c'est que depuis mes études à Lille, j'ai toujours remarqué que les gens qui font la musique ancienne et beaucoup de gens qui font la musique improvisée ou dite contemporaine ou d'aujourd'hui, ou etc., c'est souvent les mêmes qui s'y intéressent. Et qu'au milieu, il y a le classique ou le romantique. Et en fait, la réponse est évidente. Et ça, c'est Michel Godard qui en parle très très bien. C'est que...
Tubiste et serpent, non ?
Oui, qui joue le serpent et le tuba, avec qui on a une longue amitié et beaucoup de musique ensemble. La manière de faire la musique pour une personne du XVIIe siècle et pour un jazzman, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il n'y a la frontière entre exécution, improvisation et composition est complètement floue. En fait, c'est les gens qui jouent. Les gens qui jouent improvisent et de temps en temps ils notent. Ou ils écrivent un thème, ou ils font un truc. Et c'est exactement pareil. Et cette liberté-là, on l'a pas dans la musique 19e. La musique 19e, on a beaucoup de liberté aussi, mais c'est pas la même, c'est pas celle-là. La liberté du 19e, c'est celle qu'on retrouve dans la variété, Jean Fréhel, etc. etc. C'est Rubato, Expression, etc.
Oui,
c'est pas la même chose.
Oui.
Il y avait aussi de l'improvisation. Mais pas le continuo. Et le continuo, c'est pareil que les grilles de jazz, quoi. C'est la notation qui n'est pas la même. Le continuo, la main gauche est fixée, mais on improvise la main droite. Et après, quand on est claveciniste et puis qu'on s'intéresse à ça, on apprend soi-même à improviser des préludes, et même des allemandes. Enfin, il y a eu le festival d'improvisation de Lausanne, comme ça, qui a été centré sur la musique ancienne. Et tous les concerts étaient improvisés d'un bout à l'autre. Et quand on met le doigt dedans, d'abord, on gagne beaucoup de bonheur, et puis, surtout, après, on peut jouer avec n'importe qui improvise, quel que soit le style. Parce qu'on se comprend. Et puis, ça crée des choses, des fois, surprenantes.
France Musique, les grands entretiens de Freddy Eschenberger.
Alors vous vous intéressez à la musique ancienne, vous êtes continuiste, vous n'abandonnez pas l'orgue pour autant?
Non.
Alors où est-ce que vous pouvez jouer? À quelle tribune? À cette époque-là, dans les années, début des années 90, fin des années 80?
Ah, et ben quand je reviens à Paris, je reviens au Foyer de l'Âme. Parce qu'en fait, le temple du Foyer de l'Âme, pourquoi je joue au temple du Foyer de l'Âme? Parce que j'avais demandé, donc moi j'étais étudiant en médecine à Saint-Antoine, et donc je cherchais un orgue pas loin de la Bastille, enfin dans ce quartier-là, et je demande à Arlette Audron, qui était ma professeure de l'époque, et je lui demande, tu connais un orgue dans ce quartier-là? Elle m'a dit, bah, va voir au temple du Foyer de l'Âme, l'orgue est pas mal. Et puis je crois qu'ils sont assez accueillants, il y a pas mal d'étudiants qui payent 2-3 sous, mais qui peuvent travailler là. Et puis effectivement, voilà, donc je suis arrivé là.
Vous le partagiez avec d'autres organistes?
Ah oui, bah à l'époque, bah, oui. Bah, moi j'allais juste travailler.
Oui, ça.
J'y allais assez souvent quand même, mais j'allais travailler. Et du coup, comme l'organiste, je la connaissais aussi du stage de Saint-Dié, elle m'a assez vite proposé de la remplacer de temps en temps quand elle ne pouvait pas sur un culte. Donc, en fait, j'ai commencé à l'âge de 18 ans à accompagner de temps en temps un culte là-bas. Mmh. Ensuite, je pars à Lille et au retour, je suis revenu là-bas. Ça a été, j'ai pas eu à me poser de questions.
Alors, on passe, quand on est organiste et claveciniste et continuiste, on passe du profane au sacré sans cesse, finalement,
oui.
Du culte au...
Oui,
au profane,
oui.
sans problème.
Oui.
Ouais.
Oui, parce que... puis quelle différence... Y a-t-il autant de différence entre le profane et le sacré? Parce que quand un concert, c'est un instant sacré. Et donc après, faire chanter les gens, c'est quand même très agréable. C'est comme le continuo, c'est-à-dire que c'est vous un peu le...
L'étincelle.
Le matelas, non? Le,
ah,
le fondement,
oui.
Le... vous savez, dans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de. Un Lucky Luke qui s'appelait le pied tendre, où le bizutage consiste à faire sauter le nouvel arrivant sur une toile tenue par quatre mecs. Et puis là, pour moi, le continuiste, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous êtes là, vous plantez votre accord, et puis vous regardez la violoniste, et vous dites allez, saute maintenant, vas-y! Vas-y. Et on a ce rôle de pulser, quoi, de porter, de permettre à l'autre d'être libre, de pouvoir... C'est-à-dire, nous, on a notre liberté est dans le fait de pouvoir soutenir de la manière qu'on juge la meilleure possible, de manière à ce que l'instrument de dessus, ou le chanteur, lui, puisse aussi partir... dans les nuages.
Freddy Eschenberger, on entend les chanteurs qui chantent, les instrumentistes qui jouent. C'est exactement ce qui se passe un dimanche par mois au temple du Foyer de l'Âme, justement, à Paris. Et je pense là à des expériences que j'ai vécues en tant qu'auditrice au temple du Foyer de l'Âme à Paris, où vous organisez depuis 19 ans l'intégrale des cantates de Bach avec des amis musiciens. Et de temps en temps, c'est vous qui tenez la partie de l'orgue, de temps en temps, ce sont d'autres musiciens. Quel a été le déclic pour cette intégrale?
Ah, c'était une année 2000, une année Bach. Et c'est Jean-Christophe Frisch qui a dit, ouais, on ne fait jamais des cantates de Bach, on fait toujours les 15 mêmes. Faudrait trouver un endroit pour faire ça, entre copains. Et moi, je dis, mais moi, j'ai l'endroit. Parce qu'à l'époque, on jouait ensemble. Et on a démarré. Au départ, on pensait en faire que 4. Et il y a eu un tel succès, à la fois de la part du public, des gens qui avaient envie de jouer. C'est bénévole depuis le début. Hein. Qu'on a continué. Puis après, bon, Jean-Christophe s'occupait de son groupe. Donc il a assez rapidement lâché l'affaire. Donc c'est moi qui me suis retrouvé avec le bébé, quoi.
concert à entrée libre, acoustique de l'église, incroyable, et un orgue qui a été restauré.
Ah ben, refait.
Refait.
Oui, oui, oui. L'orgue était... Au départ, on avait un petit orgue romantique, donc un orgue Mutin, donc successeur de Cavaillé-Coll, 1907. Au début, on comptait le rafistoler. On s'est rendu compte que finalement, grâce au succès des cantates, on pouvait faire un orgue neuf. Finalement, c'est Quentin Blumenröder qui a été choisi et qui était tout jeune facteur à l'époque et qui nous a fait une merveille. Mmh. Une merveille qui se mélange avec les instruments. Donc il fallait que ça se mélange avec les instruments et il fallait, et surtout on voulait un jeu de basson de 16 pieds que Sébastien Bach réclame pour l'exécution de la musique avec un grand thème, donc ce qui ne s'appelait pas encore des cantates, mais la musique qui joue le dimanche. Et quand vous faites le continuo avec du 16 pieds à la main gauche, et puis, enfin, je veux dire, ça joue tout, évidemment. En plus, on sait, dans les quelques choses qu'on sait de ce que aimait Sébastien Bach, c'est qu'il aimait la gravité. Gravité, il appelle ça. Donc, que ce soit bien assis dans le grave. Et ça, maintenant, on l'a. On a un petit orgue avec quatre jeux de 16 pieds.
Il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce temple du foyer de l'âme, que les chanteurs sont disposés à côté de l'orgue, hein, en tribune. C'est vraiment...
Oui, il y a une la tribune fait tout le tour du temple. C'est une architecture Art Nouveau, Art Nouveau calviniste, disons. Mais très, très, très beau, donc le plancher en bois, et toute une tribune qui fait tout le tour, un peu avec des arcanes, un peu comme le Bon Marché, enfin ce genre de grand magasin des années 1900. Et la tribune faisant tout le tour, l'orgue est en face des gens, et la console maintenant sur le côté, donc les musiciens se mettent à côté de l'orgue, sur la tribune. Et comme la tribune fait tout le tour, on peut mettre autant de musiciens qu'on veut. On est allé jusqu'à 40, hein, pour les grandes cantates...
Freddy Eschelberger, artisan de l'intégrale des cantates de Bach au foyer de l'âme à Paris. Ce troisième épisode des grands entretiens se referme justement sur le premier chœur de la cantate BWV 47 dans la version des musiciens de cette série parisienne. Réalisation de ce nouveau volet Marie Groux avec Benjamin Thuot, Pierre-Henri, Valérie Lavalard, Flora Sternadel et Aude Vassan. La suite de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.